Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est demain que sera disputée la première des 21 étapes du Tour de France 2015, le 102e. Cette année, le départ sera donné à Utrecht, ce qui ne pouvait qu'inspirer Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. J'aurais pu vous parler en effet de la paix d'Utrecht en 1713, mais j'ai préféré consacrer cette émission au Tour de France, ou plutôt à son grand poète Antoine Blondin, écrivain fantasque appartenant au groupe des Hussards dont nous allons parler aujourd'hui. Et pour en parler justement, j'ai convié l'une des voix historiques d'Europe 1, le chantre de la gastronomie française, Christian Millot.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Pat, qui souhaite connaître l'origine du couvre-feu.
Une question qui aurait plu à Antoine Blondin, à n'en pas douter. Nous le retrouvons tout de suite, ce Blondin, à bord de sa voiture suiveuse dans le sillage du peloton.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Demain, le départ du Tour de France sera donc donné aux Pays-Bas et, pour tout vous dire, ce prologue néerlandais n'est pas une première puisque le Tour est déjà parti 6 fois des Pays-Bas. C'était le cas notamment en 1978. Eh bien, ce Tour 78, je vous propose de le revivre à travers le regard, que dis-je, à travers le style d'Antoine Blondin. En 78, Blondin a 56 ans. Cela fait déjà un moment qu'il suit le Tour de France, puisqu'il est entré à l'équipe en 1952 et qu'il a commencé à suivre le Tour pour l'équipe en 54. Il écrit, vous savez, quasiment chaque jour, pas tout à fait chaque jour, mais presque chaque jour, une chronique sur l'étape du jour. Il est l'un des grands suiveurs de ce Tour de France. Il y en a eu quelques autres, on pourra peut-être les évoquer. Il le restera jusqu'en 1982. Aimé ou détesté, objet d'un culte oral, nous dit Stéphanie Rissement, qui vient de collecter l'ensemble des chroniques du Tour signé Antoine Blondin dans un livre passionnant que je vous citerai tout à l'heure. Aimé ou détesté, donc, nous dit-elle, ce personnage fascinant était celui dont on parle. On le racontait comme on conte une fable. On parlait de lui, de son caractère facétieux, de ses amitiés, de son rapport particulier à l'alcool. Grâce à un certain mystère entretenu autour de sa personne, la légende du personnage se fond dans la réalité de sa vie. Et c'est vrai qu'on a, sur Antoine Blondin, des idées qui bien souvent sont fausses, disons-le. Et c'est évidemment, ce sera de tout le rôle, tout à l'heure, dans quelques minutes, de Christian Millot, que de redresser un certain nombre d'idées fausses à son sujet. Alors, ce Tour de 1978, 65e Tour de France, a lieu du 29 juin au 23 juillet. Il y a 110 partants, il n'y aura que 78 coureurs à l'arrivée, hein, mais c'est toujours comme ça. 11 équipes, parce qu'on court déjà par équipe depuis un moment d'ailleurs. Et vous savez que ce Tour 78, oh, je mets tout de suite fin au suspense, il sera gagné et gagné haut la main par Bernard Hinault. Ce sera son premier grand tour, bien entendu. Donc, un départ depuis les Pays-Bas. Le prologue a eu lieu à Leiden, aux Pays-Bas, par mauvais temps, avec chaussée glissante, un ciel très bas et lourd, si je puis dire. Et voilà d'ailleurs ce qu'en dit Antoine Blondin dès le 30 juin 78 dans sa chronique. Ainsi, le séjour hollandais, ses charmes en demi-teinte, ses désillusions ouatées, se sera-t-il soldé par un résultat blanc? Et oui, il n'y a pas de vainqueur à cette étape, c'est quand même étrange. Le prologue contre la montre, contrarié par des travaux et des jours battus sous les embruns, ne jouera aucun rôle dans le déroulement ultérieur de la course. Sous les regards paisibles des vaches frisonnes et bicolores, dans les nuances faire part de deuil, au ras des moulins pimpants piqués dans des verts pâturages comme des gadgets historiques, dans les artères suintantes de cette capitale du lait, les champions, négligeant l'aspect somme toute bidon de l'entreprise, oh le beau jeu de mots, se sont battus pour une brassée de tulipes au fanfan, conclut Blondin, est-ce d'autant plus beau que c'était inutile ? Voyez ce style, évidemment on parle des Hussards, hein, donc le style est là, présent, déterminant. Et puis voyez ce goût déjà pour les jeux de mots, qui est très partagé par la presse de l'époque, mais qui chez Blondin atteint au rang d'un des beaux-arts. On connaissait la classe du champion Eddy Merckx, nous dit Blondin, pour saluer le champion qui pour une fois ne va pas concourir. On l'admirait dans la crainte et le respect avec la froide distance qui vous sépare d'un dieu. Son successeur ne semble pas encore tout à fait désigné. Nous attendrons d'avoir passé la frontière, pour citer Bernard Hinault. L'heure présente appartient encore à Henny Kuiper, le blond enfant de cette province dont il est le prince, l'ennemi public numéro un, conclut-il. Était-il bien nécessaire d'aller jusque-là? La première étape a lieu donc le lendemain. C'est un départ mouvementé. Il y a eu de nombreuses chutes. Enfin, ça s'est très mal passé, ce départ. Je n'insiste pas. Et c'est à la deuxième étape qu'on arrive donc en France le 1er juillet 1978 avec la victoire du Français Jacques Esclassant, qui est un sprinter, hein, c'est sa quatrième étape remportée sur le Tour. Et il fait toujours gris et mauvais, c'était toujours embêtant. On aime bien avoir cette image ensoleillée d'un Tour de France qui est un peu la fête estivale, si vous voulez. Et alors quand on est dans cette région, c'était Bruxelles-Saint-Amand-les-Eaux, hein, déjà l'étape. Je n'ai rien ni contre Bruxelles ni contre Saint-Amand, je m'empresse de le dire. Mais enfin bon, avec la pluie, avec le ciel bas, c'était pas formidable. La troisième étape est encore plus pluvieuse. C'est une étape entre Saint-Amand, donc Saint-Amand-les-Eaux, et Saint-Germain-en-Laye. Et d'ailleurs, nous dit Blondin, je le cite, « Après Villebrore et Amand, voilà donc Germain. Trois saints pour quatre étapes, qui dit mieux ? Quand on ne sait plus à quel saint se vouer, il ne faut pas choisir le moindre. Et Sainte-Foy, la grande justement, se profile déjà à l'horizon des préoccupations à l'issue des 53 kilomètres contre la montre qui auront amené les coureurs depuis Saint-Émilion à renouveler une logique mondiale avant de les induire, comme par voie de conséquence, en direction de Saint-Lary-Soulan. Nous ne serons alors qu'au 12e jour de la compétition, d'un tour en forme de litanie, de ces saints faits au tour, on serait spontanément en droit d'attendre des miracles. » Là, c'est pire qu'un sketch de... ou mieux, si vous voulez, qu'un sketch de Raymond Devos. C'est-à-dire que c'est une véritable cascade de jeux de mots. Je ne sais même pas si vous les avez tous perçus dans leur espèce de fracture, de comment dirais-je, de cataracte de jeux de mots. La quatrième étape est un contre-la-montre par équipe, Évreux-Caen, 153 km. Et voilà ce que nous dit le 4 juillet 78 Antoine Blondin. À l'image de la course olympique des 100 km sur route, écrit-il, l'étape contre-la-montre par équipe est une affaire de famille, associant des tempéraments venus d'horizons divers mais soudés par un faisceau d'intérêts communs difficilement liés, où le meilleur et le plus faible se doivent des concessions mutuelles. Dans une compétition où tout compte, la victoire finale appartient à ceux qui comptent tout. Après une cinquième étape en demi-teinte, la sixième va conduire nos coureurs à Poitiers. Alors ça, je m'en souviens parce que en 78, moi j'habitais à Poitiers et je me rappelle très bien l'arrivée des coureurs du Tour de France.
La foule attend le Tour de France. À quel tintamarre, à quel pavé dans la mare. Avec plus d'un quart d'heure d'avance, un petit gars tout seul pédale entre les tilleuls. Il a le maillot, il a le maillot bouton d'or, le maillot jaune. Il a le maillot, la foule crie bravo. Ça s'est fait dans un éclair au matin clair. Tous les gros bras s'observaient, pas d'accord. C'est alors qu'il a résolu le problème. Il a bondi dans le décor sur son vélo faisant corps avec lui-même. Le guidon vissait dans les paumes, un ultime effort. Et voilà, c'est lui le plus fort. Dans la clameur du vélodrome, les bras chargés de fleurs, il pédale tout en douceur.
Sur Europe 1, un extrait de la chanson « Il a le maillot jaune ». On écoutait Marcel Amont. On vous retrouve, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur le Tour de France cycliste en 1978, dans le sillage de l'écrivain et journaliste Antoine Blondin.
Et oui, et c'est Antoine Blondin qui nous le fait revivre. Ce Tour 78, qui était parti des Pays-Bas, comme celui qui commence demain. La légende d'Antoine Blondin se fond dans celle du Tour à n'en faire qu'une, nous dit Jean Cormier, dans un ouvrage qu'il consacre, un ouvrage collectif, consacré à Antoine Blondin, la légende du Tour aux éditions du Rocher. Tour à tour puissante, ravageuse, gaie, gaillarde, aussi provocatrice qu'émouvante, où le rire efface les pleurs, où les couleurs dansent dans les sprints, où le maillot du meilleur grimpeur se distingue dans les nuages, où l'on n'a pas le temps de reconnaître la plisse du meilleur descendeur tant il semble avoir la police aux fesses, là lui aussi s'amusait avec les mots, hein, où il fait beau quand il tombe des cordes parce qu'on a envie d'y monter pour remercier le bon Dieu d'avoir inventé semblable épreuve. Là où magie et alchimie font l'amour pour créer ces instants sublimes. Blondin est pour l'autre maillot jaune, celui des suiveurs, qui souvent précède, car les voitures de presse, la mythique 101 pour Antoine, vivent la course selon leur bon vouloir, souvent devant pour être tout premier en salle de presse. Antoine Blondin reste un phare pour les journalistes dits sportifs qui couvrent la grande boucle. Alors nous l'avions laissé, Antoine Blondin et toute la caravane et tous les suiveurs et bien sûr tout le peloton des coureurs, nous les avions laissés à Poitiers, où dont va partir la 7e étape, hein, l'étape Poitiers-Bordeaux. Et voilà la chronique que signe Blondin depuis Poitiers justement. « La tradition historique, écrit-il, rapporte que jadis, les manants battaient les douves des châteaux pour intimer le silence aux grenouilles qui perturbaient le repos du seigneur et coassaient en se multipliant. La nuit des temps porte conseil. On en veut pour preuve que l'accueil d'une courtoisie exquise, réservée par le marquis de Contade et ses hôtes à la caravane du Tour de France, venue porter ses flots et ses flonflons contre les grilles du château de Montgeoffroy. Couchons-nous très tard, levez-vous très tôt. » Très tôt écrit comme les très tôt de foire, bien entendu. À cette invitation du châtelain, les chapiteaux se mirent à vrombir du soir au matin, mêlant leur liesse transhumante à celle plus immuable des indigènes de l'aimable bourg de Mazé, où l'oignon qui fait pleurer ceux qu'il va réjouir est élevé à la hauteur d'une institution, et où la rose, qui peut réjouir celle qu'elle va faire pleurer, est cultivée dans des serres d'une élégance raffinée. Nous disons bien des serres, non des griffes, où l'on s'applique à mettre la rose au point. Oh là là, la rose au point, P-O-I-N-T, bien entendu. Voyez que, sous couvert de journalisme sportif, de chronique sur le Tour de France et sous couvert de suivre les coureurs, c'est d'une façon plus générale la France, ses traditions, ses paradoxes que Blondin nous fait découvrir ou redécouvrir. C'est d'ailleurs, à mon avis, ça n'est pas le plus mince mérite du Tour de France que de nous amener comme ça à redécouvrir chaque année un peu notre patrimoine. Il faut dire que depuis quelques années, la télévision s'y emploie grâce à la multiplication d'images aériennes et de belles de focus très intéressants sur nos grands monuments. La 8e étape en 78 était un nouveau contre la montre. Ça, c'est le premier test d'importance. C'est la fameuse étape Saint-Émilion-Sainte-Foy-la-Grande dont il parlait tout à l'heure. Et c'est effectivement Bernard Hinault qui va emporter haut la main ce contre la montre. Et là, il commence à s'imposer véritablement. Il était né en 54, Bernard Hinault, dans une famille d'agriculteurs de 5 enfants. Et on sait que c'est son frère qui lui avait offert un vélo pour ses 8 ans. Il a fait toutes sortes de compétitions amateurs par la suite. Il est tellement doué, évidemment, qu'on lui a dit qu'il fallait qu'il devienne professionnel. Il est donc entré dans ce circuit professionnel en mai 1974. Et très vite, on va le surnommer le blaireau pour sa capacité à ne jamais lâcher sa cible. Ce n'est pas pour rien que la compétition d'aujourd'hui entre Saint-Émilion et Sainte-Foy-la-Grande, baptisée l'étape des vins par le programme officiel lui-même, tient dans une course contre la montre individuelle, nous dit Antoine Blondin. Cette manifestation prépondérante à laquelle la tradition a donné le beau nom d'épreuve de vérité, la seule où, par paradoxe, les coureurs ne puissent déboucher du peloton, contenant, qui les enferme à l'ordinaire comme un récipient plus ou moins hermétique, un trajet d'un seul jet où il est impossible aux caves de se rebiffer, ne pouvait se dérouler que dans un de ces admirables contextes vinicoles où l'œnologie s'accorde à l'écologie, nous dit-il, en préambule à une 9e étape beaucoup plus calme, bien entendu. Étant entendu qu'une course admirable comme celle que nous avons vécue hier pourrait fort bien se passer de commentaires profanes d'un chroniqueur de mon acabit, écrit Antoine Blondin, pour mieux laisser les chiffres parler d'eux-mêmes, on peut admettre, pour le cas où ceux-ci chuchoteraient qu'il faille un peu élever le son, dont l'obtention requiert parfois qu'on fasse l'âne, et compte tenu, comme l'a écrit Jules Romain, que les commentaires sont la partie la plus durable du plaisir, ce plaisir fut intense, qui replaçait l'homme devant son vieil ennemi héréditaire, le temps, sans omettre de l'inscrire dans un espace également contraignant qui tirait ses fortunes d'un décor allègrement tourmenté. Comme tout ça est écrit. Il y a sans doute des tours de force dans les échappées du Tour de France, mais vous avouerez qu'il y en a quelques-uns aussi dans les échappées littéraires d'Antoine Blondin. La première étape de montagne est la 10e, Biarritz-Pau. Et là, bien entendu, c'est ce qu'attendent tous les amateurs, tous ceux qui connaissent le Tour et qui le suivent de très près, bien entendu. Voilà ce qu'écrit Antoine Blondin. Nous sommes maintenant déjà le 10 juillet 78 et la chronique est écrite à Biarritz. Quand on consulte le palmarès des victoires d'étape dans les 64 tours qui ont précédé celui-ci, on s'aperçoit que les plus ardents, les plus hermétiques, concédèrent presque toujours à quelques plombiers baladeurs l'aubaine d'une fuite d'un jour. Et c'est vrai que ces toutes premières étapes de montagne sont généralement remportées par ceux qu'on attendait le moins. Alors, il faut à Blondin la joie de s'esbaudir sur le paysage local et sur l'histoire locale. Tout le monde ne peut pas faire dans le génie, comme disait plaisamment Napoléon III en effilant ses moustaches, dit-il, lorsqu'un caprice espagnol de son épouse l'incita à faire retentir les trempettes de la renommée sur ce rivage de pêcheurs frontaliers pour le convertir en une station balnéaire qui fait de l'empereur un modeste précurseur de Louison Bobet, ici présent. Oui, vous savez que Louison Bobet s'était reconverti dans la Thalasso. Ah oui, c'est un peu compliqué, c'est comme le Tour de France, il faut suivre en vérité.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de la Grande Boucle en 1978, vous évoquez Franck Ferrand, le Tour de France cycliste, à travers le regard de son chroniqueur mythique, Antoine Blondin.
Et à travers ses jeux de mots, voilà ce qu'il écrit le 12 juillet 78 à Saint-Lary-Soulan, sur la ligne d'arrivée de cette étape du plat, c'est le plat d'Adet, vous savez, PLA. De cette étape du plat, si l'on ose s'exprimer ainsi au terme d'un parcours affreusement tourmenté, le cher Luis Ocaña, retranché modestement derrière des lunettes noires, appréciait en connaisseur la victoire de Mariano Martinez, devant qui il combattit naguère avec le succès que l'on sait. Cette conjonction de Luis et de Mariano posait sur le final de cette course à grand spectacle, parfois dramatique, un petit air d'opérette qui clôturait en beauté la première moitié du Tour de France. Alors la deuxième moitié, on va être obligé de la faire à très grandes enjambées, on va mettre le grand braquet si vous le voulez. Je ne vous parle pas de la 12e étape qui a été tristement marquée par une grève des coureurs. Et oui, on est en 78, mais ça existe déjà ce genre de choses. La chaleur extrême qui rend la 13e étape assez terrible, c'est l'étape Figeac-Superbesse en plus. Un contre la montre le 14 juillet. 14e étape, 14 juillet, 14 dents, soit le braquet moyen employé sur l'ensemble de l'étape, écrit Antoine Blondin, dont la diversité somptueuse exigeait qu'on les utilisât tous, du plus petit jusqu'au plus grand, et surtout vice-versa, car le cadeau empoisonné venait à la fin, in coda venenum, comme on dit dans la région depuis que les Romains vinrent battre le plateau de Gergovie et s'y faire battre avant de triompher à Alésia par jet de l'éponge, du glaive et du bouclier. On appréciera que les 5 premiers de l'épreuve du jour se recrutent parmi les 6 meilleurs du classement général de la veille, attestant que le Tour de France, parfois sans en avoir l'air, met véritablement choses et gens à leur place respective. Ça, c'est une allusion à ce qui s'est passé 2 jours plus tôt, évidemment. 15e étape, toujours cette grosse chaleur qui emmène néanmoins qui emmène Bernard Hinault, c'est pas tout à fait le même, mais enfin c'est la même puissance, vers des sommets. Je voulais faire une allusion à Victor Hugo, mais je n'ai pas le temps, c'est ainsi. Ça se télescope aussi un peu dans mon esprit. On parle un peu du dopage sur la 16e étape, parce qu'alors il y a un coureur qui avait, vous savez, il avait mis une petite poche remplie d'urine propre, si l'on peut dire, sous son bras. Manque de chance, le tuyau s'est engorgé et donc ça s'est remarqué. Alors il a été déclassé, enfin ça fait un vrai scandale, je passe là-dessus. L'étape de montagne de l'Alpe d'Huez, c'était la 16e, la 17e, c'est Grenoble-Morzine. Ici, les conférences au sommet n'usurpent pas leur nom, écrit Antoine Blondin. L'escalade dans la parlotte est reine, et l'expression doit être véritablement prise, sinon au pied, du moins au plus haut de la lettre, 1800 mètres de dénivellation. Nous n'en avons pas connu moins de 5, dont certaines étranges qui évoquaient le régime parlementaire où les langues allaient bon train. Durant cette journée de repos, certaines ne se contrôlaient plus, si l'on peut dire, et l'on en vient à penser qu'il conviendrait peut-être d'opérer quelques prélèvements de salive, car les plaintes en haut lieu affluaient. On entre en Suisse pour la 18e étape, c'est Martinez qui reprend le maillot à pois qui avait été la veille pris par Hinault. La 19e étape, c'est Lausanne-Belfort avec Hinault qui reprend le fameux maillot à pois. Et l'étape d'Hinault, si je puis dire, c'est la 20e étape, celle de Metz-Nancy avec une victoire haut la main du Français qui enfile son premier maillot jaune avec, s'il vous plaît, près de 4 minutes d'avance sur son dauphin. Il ne faut pas perdre de vue les fameuses 14 secondes fatidiques étirées entre Joop Zoetemelk et Hinault, les mêmes qui séparaient en 1964 Raymond Poulidor de Jacques Anquetil avant l'ultime épreuve du contre-la-montre, écrit Antoine Blondin. Pour cette conjoncture seule, le Tour de France 1978 aurait mérité d'être vécu. Et Dieu sait que les grands moments, c'est un peu ce qu'ils cherchent en assistant à tous ces Tours de France. Ils cherchent, vous savez, ces espèces de moments de légende qui sortent complètement du temps et qui vous donnent le sentiment là d'être en présence tout simplement des dieux du vélo et de l'enthousiasme, bien entendu. Alors, il parle de Hinault de plus en plus dans ses chroniques, ce qui est normal, puisque c'est lui qui est en train de s'imposer, là, vraiment, dans cette fin de Tour de France. « Auguste Hinault », titre-t-il le 22 juillet. Il ne s'agit naturellement pas de l'acception clownesque que l'on peut donner à l'épithète Auguste, mais du sceau impérial qui marque les grandes performances « Ave César ». La majesté de l'exploit en impose, elle réconfortera la foi cycliste, au demeurant jamais défaillante, de ceux qui estiment que les meilleurs ont gagné et que cette victoire, on ne peut plus conforme, illustre un mode d'expression qui peut passer pour non-conformiste. Oh, comme c'est bien dit ça. Et cette victoire, on ne peut plus conforme, illustre un mode d'expression qui peut passer pour non-conformiste. Que peut-on demander de plus dans le cadre d'un triomphe romain ? Voyez que jusqu'au bout, la métaphore est filée. C'est d'ailleurs un des secrets de ces grandes chroniques d'Antoine Blondin que d'adopter une thématique autour de laquelle vont rayonner tous les champs lexicaux, tous les registres verbaux. Il y a vraiment à chaque fois une teinte qui domine. La 22e et dernière étape emmènera les coureurs le 23 juillet 1978 de Saint-Germain-en-Laye aux Champs-Élysées, évidemment. Hinault se concentre sur le maillot jaune. Il va laisser Mariano Martinez récupérer son maillot à poids. Il est bien sûr le premier au classement général, hein. Bernard Hinault, 112 heures, 3 minutes et 2 secondes. À 3 minutes 56 derrière Job Zoetemelk, justement. Et puis Joaquim Agostinho, qui est un Portugais, qui arrivera 7 minutes encore derrière le deuxième. Que dit Monsieur Blondin de ce beau résultat ? Il n'en dit rien du tout.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Le Tour de France cycliste de 1978 et son compteur dans les colonnes du journal L'Équipe, Antoine Blondin, sont au cœur de l'histoire. Vous recevez Franck Ferrand, l'écrivain et journaliste Christian Millau, auteur de Au galop des hussards dans le tourbillon littéraire des années 50, et ravi de vous avoir rencontré. Deux ouvrages parus aux éditions de Fallois.
Deux ouvrages qui évoquent cette extraordinaire efflorescence littéraire des années 50, Christian Millau. Ce qui est fascinant, c'est que vous ayez été au milieu de tout ça et vous avez connu, vous, Antoine Blondin, vous l'avez rencontré en 51.
Je l'ai rencontré au journal Opéra, qui avait pour rédacteur en chef Roger Nimier, et j'y faisais mon entrée. Je sortais du journal Le Monde, où je m'étais ennuyé pendant un an et demi, et là j'arrivais dans un monde absolument magique. Et dans la salle de rédaction rue Réaumur, qui était dans le même immeuble que l'Aurore, je me souviens, je fais la connaissance d'Antoine. Et dans le galop des hussards, j'ai donné cette petite description d'Antoine, si vous permettez, je vais le citer. Cheveux bouclés, col ouvert sur un chandail de cachemire, taille fine dans un impeccable pantalon velours, il avait la beauté et la grâce d'un archange. On l'aurait imaginé un lys à la main, annonçant à la Vierge l'heureuse nouvelle, quitte après à lui proposer d'aller boire un coup. Et donc, Blondin, ben, je l'ai connu.
On le voit d'ailleurs, hein, ce très beau jeune Blondin était, en couverture de votre ouvrage Au galop des hussards.
Il était très beau.
Il a changé par la suite, bien sûr. Hein.
Alors, je vais pouvoir me reciter, si vous permettez, mais là, c'était la fin des années 80. Et c'est quand même assez triste. Plusieurs fois, pressé d'aller retrouver son abreuvoir préféré, j'aperçois Antoine et alors je traverse la rue. La fois d'avant, l'être exquis, derrière son masque de gamin fripé, s'était d'un coup déchaîné, devenant insultant, renversant des tables. Et de son côté, à la même époque, Michel Déon, qui avait été avant moi même son de ses plus vieux amis, écrivait « L'homme avili, croisé rue Mazarine, presque clochard, à demi édenté, au visage déformé par l'alcool, dans une démarche titubante et un vin mauvais, ce n'était pas Blondin.
Mais oui.
Mais c'est toute une vie.
Résumé là en quelques phrases. Vous avez vu, vous, cette évolution du personnage petit
bien
à petit.
Sûr. Hein, ça... Mais avec une certaine lâcheté, et j'en parlais encore l'autre jour avec mon ami Michel Déon, nous étions évidemment. On adorait Blondin. C'était un personnage adorable. Et en même temps, on avait un peu honte à la fin parce qu'on le fuyait.
Eh oui.
On le fuyait.
Alors, vous parlez de Michel Déon, il faudrait évoquer tous les hussards. On va le faire tout à l'heure, si vous voulez. Nous allons revenir sur ce groupe littéraire qu'on a appelé les hussards. D'ailleurs, au départ, c'était plutôt une insulte qu'autre chose, mais enfin, on va y venir tout à l'heure. Restons pour l'instant sur Blondin, sur cette magie du verbe. Il avait quand même le sens de la formule, c'est le moins qu'on puisse dire.
Je crois que de tous, c'était peut-être l'écrivain le plus doué. Le plus doué. Et... il y avait une grâce chez lui, une grâce qui préexistait sur son visage et qui peu à peu l'a quitté.
C'est évanoui.
Mais la grâce de son style l'a maintenu jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier jour.
Il est mort en 1991.
Il est mort en 1991. Je peux dire un petit mot de sa vie, si vous
bien
me permettez.
Bien sûr, bien sûr.
Donc, c'était un Parisien, il était né en 1922, et lui-même se disait « Je suis le fils d'une poétesse, ce qui est
exact,
était
vrai, oui.
Germaine Blondin, et d'un célibataire. » Et ça, c'est toute sa vie, une vie assez triste qui contraste...
Son père était un peu en marge, il faut bien dire. Hein.
Bah, c'est un peu un couple, on dirait aujourd'hui un peu de bobo,
oui.
Voyez-vous. Alors, son père était un peu journaliste, il a été correcteur dans les imprimeries, et surtout, il courait les bistrots. Et Blondin a eu cette phrase, « On ne s'aimait pas trop, Pierre Blondin et moi. » Et ça me ramène à un souvenir, un dîner que j'avais donné chez mon père, peu de temps après la mort de ma mère, j'habitais donc chez lui, et il y avait
là... Vous habitiez chez votre père, là, oui.
Oui, il y avait là Blondin, il y avait Nîmier, il y avait Chardonne...
en toute simplicité.
Bah non, mais c'était des amis. Blaise Sambrat, Marcel Aimé.
Et voilà. Ben voilà.
Et mon père n'avait jamais rencontré Blondin, ils étaient dans un coin... Il y avait une bouteille de Chablis qui était sur une console et je vois Blondin rééditer un peu la scène des vignes du Seigneur d'un vieux film avec Victor Boucher et il était carrément en train de d'étreindre mon père et de glisser des mots d'amour lui disant Paul je t'aime. Alors, j'étais un peu gêné pour dire qu'est-ce que va penser mon père et mon père très gentiment il soutenait la conversation et tout s'était très bien passé.
Et à la sortie, oui.
Pardon.
Oui, pardon. Oui.
Et à la sortie, Blondin me dit, tu sais, ton père, je l'aime comme un fils, et tu ferais bien d'en faire autant. Et 32 ans plus tard,
voilà, ouais.
Je prends le train pour
Limoges,
ouais. Où il habitait. Il avait quitté Paris provisoirement, et là, je le rencontre, bien sûr. Wagon restaurant, je lui offre un verre de bière qu'il envoie tout de suite au plafond d'ailleurs parce que comme les vrais alcooliques, il n'avait plus besoin de boire, une goutte suffit. Et à ce moment-là, il me dit alors ton père, je dis mon père est mort. Ah, il me dit et tu sais, ton père, je l'ai aimé comme un fils, comme extraordinaire. Et son père s'était suicidé à l'âge de 26 ans. Et on voyait que ce garçon était vraiment à la recherche d'un père.
Il a écrit une œuvre qui est exactement sur ce thème, c'est-à-dire un jeune homme à la recherche d'une figure paternelle. C'est le merveilleux Singe en hiver. Je vous propose d'écouter le monologue de Jean Gabin au début de ce film extraordinaire dialogué par Antoine Blondin, Un singe en hiver.
Attention aux roches. Et surtout... Attention au mirage. Le Yangtze-Kiang n'est pas un fleuve, c'est une avenue. Une avenue de 5000 km qui dégringole du Tibet pour finir dans la mer Jaune. Avec des joncs et puis des sampans de chaque côté. Puis au milieu, il y a des tourbillons d'îles flottantes avec des orchidées hautes comme les arbres. Et donc ces Kiang, camarades, c'est des millions de mètres cubes d'or et de fleurs qui descendent vers Nankin. Et avec tout le long des villes pontons où on peut tout acheter, les alcools de riz, les religions, et puis les garces et l'opium. Je peux vous affirmer, tenancière, que le fusilier marin a été longtemps l'élément décoratif des maisons de thé. Dans ce temps-là, on savait rire. Elle s'était mise sur la paille pour un maquereau roux et rose. C'était un juif, il sentait l'ail. Et la veille venant de Formose tirée d'un bordel de Shanghai.
Oh, c'est beau.
C'est bon de moi. C'est des vapes comme ça qui me reviennent quand je descends le fleuve.
Je croyais que c'était une avenue.
On ne sait pas. C'est peut-être un rêve qui se jette dans la mer.
Là, il y a les trois talents conjugués d'Antoine Blondin, qui est le concepteur même, qui est l'auteur du roman, de Michel Audiard, qui est le dialoguiste, et puis de celui qui a fait le lien, si je puis dire, entre les deux, c'est Sébastien Japrisot, qu'on a tendance à souvent oublier. Merveilleuse, Antoine Blondin, on est dans la poésie pure. Est-ce que ce n'est pas le terme, finalement, poète?
Oui, moi, je comparais un petit peu à Alfred de Musset. Il avait eu une vie... aussi difficile, catapulteuse, si j'ose dire. Et il avait une chose extraordinaire, Blondin, c'était cette lucidité sur lui-même.
Comme s'il se regardait vivre et chuter.
Jusqu'au bout. Une pratique de l'autodérision tout à fait extraordinaire. Je vais citer quelques-unes de ces phrases que j'ai relevées. Sur mon visage, on discerne mal le résumé des chapitres précédents. Ma vie était un pastiche de la vie. C'est un mot qu'il a prononcé peu de temps avant sa mort. Je fais Planète à part. Et puis enfin, j'ai préféré mourir de mon vivant.
Eh oui, et tout est dit là, d'une certaine manière. On peut résumer Antoine Blondin peut-être à cette formule, il sera mort de son vivant.
Alors, imaginez un peu... Oh, pardon.
Non, je vous en prie.
Imaginez un peu ma tête lorsque j'ai entendu, il y a quelques années, sur France 3, on présentait un film qui s'appelle Un siècle d'écrivains, qui était très bon d'ailleurs, sur Antoine Blondin. Et la présentatrice avait eu cette phrase extraordinaire. Antoine Blondin, un bon vivant.
Ah oui, là, on ne peut pas dire que le terme ait été choisi. Autant Blondin était inspiré dans le choix des mots, autant certains le sont un peu moins parfois.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Sur Europe 1, c'était un extrait de Reine de Musette. On écoutait Yvette Horner. L'écrivain Antoine Blondin et le groupe littéraire Les Hussards sont au cœur de l'histoire. Votre invité, Franck Ferrand, l'écrivain et journaliste Christian Millau, auteur de Au galop des Hussards dans le tourbillon littéraire des années 50, est ravi de vous avoir rencontré. Deux ouvrages parus aux éditions de Fallois.
Et j'ai entre les mains un autre ouvrage, celui dont je vous parlais tout à l'heure, édité à la Table Ronde. Ce sont toutes les chroniques parues dans l'équipe entre 1954 et 1982. Chronique du Tour de France, est signé Antoine Blondin. C'est un recueil passionnant, donc ça s'appelle tout simplement Tour de France, et la couverture est jaune comme le maillot du même nom.
On a écrit environ 500.
C'est incroyable. Ouais. C'est un gros pavé, hein, l'ouvrage.
Oui, parce que ce roi des paresseux, c'était très difficile de lui faire écrire un livre, parce que son éditeur, la Table Ronde, Roland Levenbach, le collait près de chez l'imprimeur en province et l'obligeait. Il avait une chambre d'hôtel et tous les soirs, on était censé ramener la copie. Et alors, c'était un numéro incroyable parce que Antoine faisait quand il n'avait rien fait, bien sûr, il racontait que sa copie avait disparu, qu'il l'avait perdue, que, enfin, c'était... Or, toute cette vie de paresse a été remplie par des articles, par...
Mais oui.
C'est fou ce qu'il a pu écrire.
Et des articles d'une inventivité folle.
Extraordinaire.
Il faut d'ailleurs dire, pour nos plus jeunes auditeurs, et évidemment, Christian Millau, que vous êtes le créateur du célèbre guide Go et Millau, et que les chroniques qu'on trouve dans ce guide, avec leurs inventions littéraires, sont bien dans cet esprit, dans cette veine. Ça vous a inspiré, en quelque sorte, ce terreau-là.
Bah, écoutez, j'ai eu la chance donc de connaître les Hussards en 51.
Eh oui.
J'ai suivi Nimier dans toutes ses cavalcades journalistiques. Chaque fois qu'il changeait de journal, il m'emmenait avec lui. Et jusqu'à sa mort, jusqu'en 62.
Roger Nimier était votre meilleur ami, il faut le dire.
Je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça, j'avais pas cette prétention. Mais j'ai pour lui, et j'ai toujours pour lui, une passion. Vous voyez, alors je ne sais pas si c'est l'amitié ou quoi, mais la passion d'un homme exceptionnel, de droiture et de fidélité. Et l'amitié a joué un rôle considérable aussi chez Blondin. Blondin, pour les raisons que vous avez comprises, raisons familiales, ce garçon orphelin d'un père absent. Bon, au début, il était absent. Après, quand il s'est retiré de la ville, il était évidemment encore davantage. Eh bien, il avait pour la camaraderie et l'amitié, la camaraderie n'étant pas exactement la même chose que l'amitié, il avait une véritable religion. Et c'est ce qui l'a lié à Nimier, pas tout de suite d'ailleurs, car quand j'ai rencontré Blondin, les relations entre Blondin et Nimier n'étaient pas encore ce qu'elles allaient devenir.
Oui, ce qu'il faut dire, c'est que ce groupe qu'on appelle les Hussards, auquel appartient aussi Jacques Perret, hein, puisqu'on parlait de journalisme sportif.
Cousin Germain.
Oui, c'est ça, aux marges peut-être.
Oui,
mais,
aux marges.
Mais
oui.
Alors, bien entendu, Céline, bien entendu Nimier,
bah, les
Aimé,
Hussards,
Aimé.
Au début, si vous voulez, les Hussards n'ont jamais existé.
Alors voilà, c'est ça que je voulais aller là et dire que ce groupe, il a été constitué de l'extérieur en quelque sorte.
C'est Bernard Franck qui était un journal, tout jeune écrivain, journaliste, au temps moderne, chez Sartre, c'était la revue de Sartre, ce qui pour nous était l'horreur totale, avait écrit un article au Fer Rouge, groupant quatre jeunes écrivains.
C'était des écrivains de
Nimier,
droite, hein, disons, c'est ça.
Qui venaient de publier le Hussard Bleu, Blondin, Jacques Laurent et Michel Déon.
Futur Cécile Saint-Laurent.
Et il les appelle les Hussards, mais pour se moquer d'eux. Et finalement, c'est ce mot qui est resté. Et voyez-vous, aujourd'hui, quand on parle des Hussards, j'ai créé récemment le prix littéraire des Hussards. Eh bien, tout le monde sait ce que c'est que les Hussards. Alors, plus personne ne sait ce que l'existentialisme.
C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait d'un côté Jean-Paul Sartre, oui. Et puis tous les écrivains, on va dire, globalement de gauche. Oui. Et les Hussards, c'était des écrivains de droite. C'est comme
oui,
ça qu'on peut...
Oui, enfin, c'est plus compliqué que ça. Disons que c'était, comme toujours à droite, c'est-à-dire qu'on peut pas les enrégimenter.
Voilà, oui.
Vous comprenez? Parce que quand ils sont vraiment de droite, ils sont carrément ennuyeux. Là, ils sont de sensibilité de droite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre le grappin dessus.
Mais alors, bon, il y a un Mauriac qui n'est pas tout à fait... Il est aux franges,
alors,
lui aussi.
Alors, Mauriac avait beaucoup d'amitié au départ pour Nimier. Il a été l'un des premiers à découvrir le talent de Nimier. Mmh. Voilà. Et puis après, les choses se sont un peu gâtées.
Il y a des grands auteurs comme Chardonne, dont vous parliez
alors,
tout à l'heure.
J'étais
Paul
très ami de Chardonne
Paul
aussi.
Morand, bien entendu.
Alors, Paul Morand,
Tous ces auteurs avaient pâti de l'époque de l'occupation. Et donc, ça a créé une sorte de souffre autour d'eux, bien entendu.
Vous savez, c'était Nimier et Blondin aussi, d'ailleurs, mais Nimier peut-être encore plus. Il ne supportait pas... Il était du camp des vaincus. Et ça, c'est une grande tradition. Vous avez ceux qui sont du camp des vainqueurs, même quand ils n'ont rien gagné par eux-mêmes, mais qui rejoignent le camp des vainqueurs. Et puis, il y a ceux qui sont du camp des vaincus. C'est-à-dire que, sentimentalement, de cœur, ils sont avec ceux qui ont perdu. Et ces gens, ces grands écrivains qui avaient perdu, Morand, Charbonne, Céline et bien d'autres,
bien
qui étaient devenus des parias, les pestiférés,
oui,
en quelque sorte, eh bien, il fallait leur tendre la main. Voilà. Et Blondin était dans les mêmes sentiments.
Il y a chez tous ces auteurs un point commun, c'est la passion du style. C'est-à-dire que là, la forme va presque jusqu'à primer sur le fond. Le style est éblouissant. Alors, dans le cas d'un Roger Nimier, on peut dire, enfin, moi, je trouve que ça atteint des sommets, là, vraiment. On lit ces pages comme de véritables baumes. Hein. C'est tout à fait extraordinaire. Et le prix que vous avez créé, le prix des Hussards, est destiné à récompenser le style, justement.
Nous essayons de trouver... Remarquez, cette année, on en a trouvé un excellent... qui est Sylvain Tesson, oui, avec sa Bérésina, auquel nous avons donné le prix des Hussards.
Oui, il en a eu d'autres depuis.
Merveilleusement écrit. Hein. C'est un très très bon écrivain, Tesson.
Ce sont des gens qui cisèlent la phrase, qui choisissent le terme, qui font vibrer et chanter les mots. Hein. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. C'est ça, les Hussards, si on devait résumer, peut-être.
Oui, oui. Et puis, on ne peut pas les faire marcher au poids. Pourquoi ? Bah, parce qu'ils galopent.
Oui. Vous les avez tous bien connus. Est-ce qu'il y en avait qui étaient plus difficiles à fréquenter que d'autres, si je puis dire, des caractères un peu plus saillants? Je sais déjà ce que vous allez me dire.
Céline,
mais
bien voilà. Sûr. Céline. Bah, j'étais rendre visite à Céline. Je ne suis pas devenu un ami de Céline comme Nimier a pu l'être, mais je suis allé plusieurs fois chez lui avec Roger Nimier. Et je dois dire que Céline, mettons à part tout ce que on ne supporte pas chez lui, et je suis
évidemment
le premier à d'accord. Pour le reste, c'était un homme absolument charmant, charmant, charmant. Il ne pensait qu'à rendre service. C'était un médecin. Hein. Et Nimier lui racontait des tas de blagues. Parce que Céline était un grand blagueur aussi. On le prend un peu trop au sérieux, Céline. Céline est un amuseur, un joueur.
Oui, il y a une dimension quasi canular dans certains de ces
textes.
Tout
à fait,
oui, vraiment.
Tout à fait.
Alors, vous avez par ailleurs rencontré, ça c'est complètement fascinant, la Terre entière.
Oh non, mais...
Ah ben, c'est quand même inouï.
Je suis né au bon moment.
Vous avez écrit, toujours aux éditions de Fallois, un ouvrage qui s'appelle « Ravi de vous avoir rencontré », où surgissent les figures les plus extraordinaires du XXe siècle, quand même. Il y a des gens inouïs. Si vous deviez en garder un ou deux...
Orson Welles.
Ah oui,
ouais. J'ai eu la chance à Hong Kong, je faisais un tour du monde avec Paul Guimard, notamment, enfin bon, tout ça... je me suis arrêté à Hong Kong, j'ai passé quelques mois, et le soir presque de mon arrivée, j'ai fait la connaissance bar d'un grand hôtel de Monsieur Orson Welles, qui m'a engagé, après quelques whisky, comme assistant. Alors je lui dis, mais j'ai jamais fait de cinéma de ma vie. Ouais, ça fait rien, ça fait rien. Et donc après, nous sommes restés amis. Et pour moi, je l'ai retrouvé peu de temps avant sa mort. Et c'était drôle d'ailleurs parce qu'il m'avait coûté beaucoup d'argent. Vous savez qu'il était tout le temps à la recherche. Et j'avais payé, sans qu'il m'en parle, j'avais payé les frais d'un film, d'un documentaire qu'il avait fait. Et donc j'étais l'assistant. Et lui fout le camp et me dit, ben, tu es gentil, tu vas chercher les pellicules, tu les ramènes en Europe. Alors moi j'arrive là-bas, on me donne une montagne de bobines, et il y avait 20 000 mètres ou 25 000 mètres de pellicules. Et simplement, avec un bon sourire, on me dit, ben voilà l'addition.
Ça coûte tant de milliers de dollars.
Alors j'ai eu un moment, j'étais un peu hagard, je me dis, qu'est-ce que je fais? J'ai plus beaucoup d'argent dans ma poche, mais quand même, si je donne pas cet argent, le film disparaît. Et un film d'Orson Welles qui disparaît,
oui,
c'est embêtant.
C'est une
Alors
perte.
J'ai payé. Et Orson, que je retrouve après, à Paris, parce que ce film, nous l'avons passé chez Pierre Lazareff, cinq colonnes à la une. Je lui dis, tu sais, t'es un beau salaud quand même, tu m'as mis dans l'embarras. Alors il me dit, Christian, avec sa voix extraordinaire,
ouais, le voix
shakespearienne, tu sais bien que je te donnerai ma chemise. Et je le regarde et je lui dis, oui, mais tu sais aussi une chose, c'est que ta chemise, elle est trop grande pour moi. Voilà. Et nous nous sommes quittés sur ce bon mot.
Sacha Guitry, Arletty, Winston Churchill, Fred Astaire, Woody Allen font partie des portraits hein, que vous brossez de tous ces génies du XXe siècle, d'une époque incroyablement bouillonnante quand même.
Peut-être avec le recul, mais peut-être qu'aujourd'hui, dans 20 ans, mon cher ami, vous-même, vous direz quel bonheur, j'ai connu un tel.
J'ai connu Christian Millau, mais oui, il est même venu dans mon émission. Christian Millau, ravi de vous avoir rencontré.
Bah, c'est moi qui suis ravi d'être avec vous.
Et c'est une façon aussi de citer le titre de votre livre aux éditions de Fallois, ainsi que Au galop des hussards, dans le tourbillon littéraire des années 50. Merci beaucoup d'être venu nous faire partager cet enthousiasme pour les grands stylistes.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et voici une question de Pat posée sur la page Facebook de l'émission. Pat vous demande, Franck Ferrand, quelle est l'origine du terme couvre-feu ?
Alors, le couvre-feu, au départ, le véritable couvre-feu, c'est une tradition qui se répand au Moyen-Âge, vers le milieu du XIIIe siècle, même si, en fait, on pense que c'est Guillaume le Conquérant qui, le premier, avait imposé un couvre-feu. Ça, c'est au moment de la conquête en Angleterre. Mais, d'ailleurs, il est possible qu'il y ait eu des couvre-feux dont l'histoire n'ait pas retenu la trace, hein, par ailleurs. Toujours est-il qu'il s'agissait de faire rentrer les gens chez eux. On rentre chez soi, on ferme la porte à clé, on éteint feux et bougies. La véritable raison, le but initial, c'est évidemment de pouvoir contrôler. C'est une mesure qui est prise par un envahisseur, le couvre-feu. C'est de pouvoir contrôler les régions et d'être sûr qu'il n'y a pas d'agitation, qu'il ne se passe rien la nuit. Parce qu'il est beaucoup plus difficile de contrôler une population la nuit que le jour. La deuxième raison, elle existe incontestablement, c'est d'éviter les incendies. On peut dire qu'à partir du moment où tous les feux sont éteints quelque part, on ne risque pas de propager le feu dans les cités. C'est dans cet esprit-là d'ailleurs que le couvre-feu va être peu à peu, au XIVe, au XVe siècle, adopté dans un grand nombre de communes. Et alors vous savez que ce couvre-feu, il est signalé par une volée de cloches. C'est-à-dire qu'au moment où la nuit tombe, au moment où on décrète le couvre-feu, eh bien vous aviez les cloches dans tous les clochers des environs qui se mettaient à battre en même temps, à sonner en même temps. Et on a à ce moment-là une impression d'extinction des feux. Il y a encore des villages hein, qui pratiquent le couvre-feu symbolique, je précise, hein, bien entendu. Quand je dis des villages, même des petites villes, je pense à Pont-Audemer, par exemple, Pont-Audemer dans l'Eure, en Haute-Normandie, où tous les soirs, à 22h, on continue à faire sonner les cloches. Alors bon, on a quand même le droit de laisser allumer aussi bien sa cheminée que sa télé, hein, je vous rassure. Mais enfin bon, cela dit, vous savez qu'on parle de la commune d'hier, des temples, etc., ça a fait l'objet de l'actualité il n'y a pas si longtemps, il y a des communes qui aussi ont décrété le couvre-feu pour les plus jeunes sur la tranche de 23h à 6h du matin pour éviter des troubles à l'ordre public, bien entendu. Alors, le couvre-feu tel qu'on l'entend nous, évidemment, il reste fortement associé à la Seconde Guerre mondiale. C'est évidemment cette période où l'occupant allemand impose un couvre-feu sur les territoires occupés. C'est lancé le 12 septembre 1943. Et alors là, c'est nettement moins rigolo, puisqu'il s'agit bien sûr d'éviter toute forme de sédition, toute forme de réunion de résistance, etc. Donc on impose la fermeture de toutes les maisons, on ne doit plus circuler dans les rues à partir d'une certaine heure qui varie en fonction du temps, et les gens qui sont pris risquent gros et parfois même risquent leur vie, bien entendu. Ça, c'est la mauvaise vision du couvre-feu, bien entendu.